L'Inde investit en Afrique, bon, pour différentes raisons. Évidemment, les premières raisons sont très concrètes, puisque l'Inde, en fait, a besoin à la fois de pétrole et de matières premières. C'est pour cette raison qu'elle s'est tournée vers l'Afrique et aussi dans un but de diversification de ses partenaires économiques. Et puis, bien entendu, parce qu'elle veut elle-même investir en Afrique, donc il reste un continent où encore beaucoup de choses sont possibles dans différents domaines. Si on prend l'exemple justement de la téléphonie mobile, bon, on connaît les compétences de l'Inde dans ce domaine, mais les entreprises indiennes sont très bien placées. Il y a des entreprises très dynamiques et en fait, l'Inde est en train de conquérir les derniers marchés relatifs à la téléphonie mobile en Afrique.
Est-ce qu'il y a d'autres secteurs comme ça qui pourraient compenser le besoin en pétrole ou en matières premières de l'Inde?
Oui. Ah ben, par exemple, il y a le secteur de l'agriculture qui est très important. Bon, il faut savoir que l'Inde est un peu un modèle en matière de développement agricole, hein, puisque dans les années 60, donc grâce à des recherches en fait de chercheurs américains qui avaient trouvé des céréales parfaitement adaptées au sol indien, mais l'Inde fait figure de pionnier en matière d'adaptation de l'agriculture aux données propres, climatiques et autres d'un pays. Et là, dans ce domaine, donc, dans le volet agricole, eh bien, il y a aussi un volet tout à fait conséquent qui est en cours de développement, et d'ailleurs, plus particulièrement avec l'Éthiopie, où se déroule le sommet, puisque un membre du gouvernement a dit récemment que l'État éthiopien était prêt à donner des terres à des entreprises indiennes si elles voulaient faire des expérimentations dans ces matières.
Et on parle aussi de deux autres groupes qui sont très importants en termes de présence en Afrique, le groupe Tata et puis aussi le groupe Cipla, là qui traite plus de médicaments et notamment des médicaments
Voilà,
génériques.
donc là, en fait, vous parlez des deux autres grands secteurs qui connaissent un développement important. Alors le groupe Tata, bon, bah, il est bien sûr très connu, surtout dans le domaine de l'automobile, mais là c'est également appliqué pour tout ce qui concerne les tracteurs, et donc on revient à l'agriculture. Et un autre domaine également, c'est celui effectivement des industries pharmaceutiques. Là, bon, il y a aussi des contrats très importants qui sont signés. Alors, la caractéristique quand même de ces investissements indiens, et c'est ce qui les différencie de la Chine, c'est que ce sont des investissements privés. Bon, bien que le gouvernement indien soit évidemment partie prenante, puisque, comme vous le savez, le Premier ministre en personne de l'Inde est actuellement à Addis-Abeba. Il a d'ailleurs prévu de visiter également la Tanzanie. Mais enfin, c'est quand même un programme de développement qui est basé sur des entreprises privées, ce qui le distingue évidemment du cas de la Chine.
Et du coup, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle d'un financement public, puisque l'État indien a promis d'offrir 5 milliards d'euros d'investissement, évidemment, sur 3 ans?
En fait, ce que fait l'État indien quand il promet de l'argent, bon, c'est en fait pour encore essayer d'accélérer les autres projets de partenariat avec des entreprises privées. Donc c'est uniquement dans cette mesure. On pourrait parler d'encadrement de l'État indien, mais bon, si on regarde les chiffres en termes d'importation, d'exportation et autres, bien évidemment que c'est le partenariat privé qui est privilégié. Bon, ceci dit, on a dit également que l'Inde avait des partenariats avec des pays comme le Nigeria pour se fournir en matières premières. On va commencer par le pétrole. Là, bien sûr que l'État indien joue un rôle fondamental dans ce domaine en particulier.
Alors, vous l'avez dit, une façon de se distinguer de la Chine. Quand même, l'Inde, avec 21 milliards d'euros en 2009-2010, contre 89 milliards d'échanges entre la Chine et l'Afrique pour la même période, New Delhi est un peu quand même à la traîne. Premier sommet en 2008 contre 2003 pour la Chine. Comment est-ce que l'Inde, justement, peut récupérer son retard par rapport aux Chinois?
L'Inde, en fait, si vous voulez, a commencé à penser à développer un partenariat avec l'Afrique, bon, avec une vingtaine d'années de retard par rapport à la Chine. Bon, ceci dit, l'Inde a des atouts que la Chine n'a pas. Le premier, c'est ses compétences spécifiques dans des domaines. Bon, on a parlé de la téléphonie mobile, mais il y a tout ce qui concerne l'informatique, et on sait que l'Inde est très compétente dans ce domaine, hein, avec ses centres comme Bangalore et autres. Mais également, il y a un aspect historique qu'il ne faut pas négliger. L'Inde a une façade sur l'océan Indien et mais il y a une tradition d'échange très ancienne entre la côte de l'Afrique orientale et l'Inde. Par ailleurs, toujours au niveau historique, l'Inde a fait partie de l'Empire britannique et comme vous le savez, un grand nombre d'États africains sont d'anciennes colonies britanniques et tous ces pays se retrouvent dans le club du Commonwealth. Et enfin, compte tenu de ce passé, il y a une population indienne qui est établie dans certains pays africains depuis très longtemps. Donc évidemment, c'est un point qui, à moyen terme, peut compter dans la compétition que se livrent déjà la Chine et l'Inde au sujet des pays africains.
Il y a quand même quelque chose aussi qu'il faudrait noter, c'est l'aversion toujours plus importante, on va dire, des populations africaines face aux Chinois. Est-ce que précisément l'Inde, au-delà de ses réseaux, de ses liens historiques, a une manière de travailler qui pourrait faire en sorte qu'il n'y ait pas ces manifestations d'hostilité envers des Chinois qui arrivent de manière massive en Afrique?
Oui, sans doute que là aussi l'Inde a une carte à jouer, bon, en fonction de ce qu'on a dit par rapport à l'ancienneté de l'existence de ces réseaux, mais bon, il ne faut pas non plus idéaliser la situation parce que lorsqu'il y a eu la phase de décolonisation en Afrique, bon, à partir des années 60, très souvent, les populations indiennes qui étaient sur place et qui étaient majoritairement spécialisées dans le commerce ont été, à la période des indépendances, un peu malmenées. Bon, en fait, cette phase a culminé avec Idi Amin Dada en Ouganda, qui a carrément expulsé tous les Indiens d'Ouganda en 1971. Mais ce que les Indiens devront faire, c'est très rapidement créer des sociétés mixtes, intégrer donc des Africains au sein de ces sociétés qui travailleront au développement de ces pays africains. Bon, ce que les Chinois ne font absolument pas.
Est-ce que vous pensez qu'au-delà même de ce que pensent les chefs d'État africains, on peut aller à un choc des deux titans, des deux géants asiatiques sur le sol africain?
Tout à fait. Évidemment, en termes de compétition économique, mais le contentieux entre l'Inde et la Chine est lui aussi très ancien. La Chine et l'Inde se sont affrontées dans une guerre au début des années 60. Et d'ailleurs, l'Inde a subi une cuisante défaite puisque la Chine a annexé quelques milliers de kilomètres carrés, certes dans l'Himalaya, mais enfin quand même, elle a amputé le territoire indien. Donc, il y a un passif entre l'Inde et la Chine. Et dans ce contexte, probablement que l'Afrique va devenir un terrain de compétition, voire de lutte économique entre ces deux géants.
Alors revenons à l'aspect, au point de vue africain, on va dire. Il y a 15 chefs d'État africains présents à Addis Abeba. C'est évidemment le signe d'un intérêt. Qu'est-ce que peut gagner l'Afrique avec ce partenariat avec l'Inde?
Du côté de l'Afrique, développer des partenariats économiques avec l'Inde, c'est diversifier ses partenaires et en particulier, bien qu'évidemment cela ne soit jamais dit officiellement, mais un peu, si vous voulez, montrer à la Chine qu'il y a d'autres partenaires tout à fait efficaces comme l'Inde. Donc ce qu'elle peut gagner, c'est une sorte, c'est paradoxal, mais une sorte d'indépendance, comme on l'a dit, par rapport à la Chine et puis par rapport à d'autres entreprises bon, européennes, par exemple bon, dans les anciennes colonies françaises d'Afrique. Bon, et en réalité, d'ailleurs, les gouvernants africains, des chefs d'État, des membres de gouvernement se sont exprimés. Il y a une phrase qui revient très souvent, c'est que la compétition est tout à fait positive pour l'Afrique. Hein, donc pour eux, c'est essentiellement dans ce contexte-là.
Il y a évidemment des liens historiques, économiques, mais est-ce qu'aujourd'hui l'alliance indo-africaine peut aussi avoir un avenir commun d'un point de vue politique?
Il y a, oui, effectivement, un aspect politique, parce que là encore, dans les déclarations qu'on a pu lire ici et là à l'occasion de la préparation de ce sommet, il y a un autre atout de l'Inde, ce qui la distingue de la Chine, c'est que l'Inde, qui a été indépendante en 1947, a toujours été une démocratie. À ma connaissance, dans ce qu'on appelait le tiers-monde autrefois, c'est le seul exemple de pays qui soit resté une démocratie de sa naissance à aujourd'hui, sans interruption. Donc, les chefs d'État africains, de plus en plus, parlent également de l'Inde comme un modèle de démocratie. Là encore, ça leur permet de mettre une distance par rapport au modèle européen ou américain de la démocratie. Et c'est vrai que l'Inde a su adapter la démocratie donc à une réalité autre qui n'est pas celle de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Et là, bien évidemment, sur ce terrain politique, la Chine n'est absolument pas en mesure d'être en compétition avec l'Inde.